Amen. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Luc au chapitre 4 et s'il vous plaît, tenons-nous debout, debout dans sa présence. Luc chapitre 4. Regardons les versets 16 et 22. On y va ensemble, lisant à haute voix. On y va. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour le privilège que nous avons à cette saison d'entendre la parole de vérité. Qu'elle nous éclaire comme une lampe jusque dans notre homme intérieur. Qu'elle affecte radicalement notre système de pensée. Qu'elle nous mette face à des choix indispensables à faire pour que notre destinée connaisse le meilleur essor. Père, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen trois fois. Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Ce matin, je vais enseigner la parole de Dieu. Et je vais enseigner sur le thème « Vivre une vie exceptionnelle ». Amen. Quels sont ceux qui veulent mener une vie exceptionnelle sur la terre? Amen. Ma Bible dit, parlant de Jésus, qu'il se rendit à Nazareth, suivez-moi bien, dans la ville où il avait été élevé, à Nazareth, là où il avait grandi, là où il avait appris son métier, là où il l'exerçait. Il rentra dans cette ville et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, le jour ordonné par Dieu, où le peuple d'Israël craignait un repos, parce qu'ils honoraient la mémoire de leur Dieu, sachant que s'ils sont ce qu'ils sont, ce n'est pas à cause de ce qu'ils font, mais c'est à cause de l'alliance qu'ils ont avec le Dieu, qui les rend capables de faire ce qu'ils font. Donc ils allaient, ce jour du sabbat, honorer Dieu. Et ma Bible dit que Jésus, selon sa coutume, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude d'entrer dans le temple et que même devait certainement se trouver dans le ministère du temple de la lecture de la parole, mais ce jour-là, quand on a remis le livre, quelque chose de différent s'est passé. Ce jour, comme par extraordinaire, même les personnes qui venaient à l'église regardaient ailleurs et n'étaient pas concentrées, ont été soudainement attentifs à son langage et les regards frappés sur sa personne. Comme si une force étrange les amenait à écouter plus attentivement. Il déroula le livre du prophète Ésaïe qu'on lui avait remis. Le peuple était debout et attendait une lecture religieuse d'un texte de la parole qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Mais ce jour, le son de la voix était plus fort. Ce qu'il y avait derrière déchirait les cœurs. Il dit, aujourd'hui même, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Car il dit, l'Esprit du Seigneur est chez nous. Et ma Bible dit que les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Bien aimé, le même texte pouvait être lu par quelqu'un d'autre, mais on n'allait pas avoir la même impression. Ce qui a donné au texte d'être considéré comme une parole de grâce, c'est parce que derrière la lecture, il y avait la vie de l'Esprit. Et il dit, après avoir roulé le livre, il le remit, il s'assit. Il dit, le message est terminé, plus de prédication. La parole de l'Écriture s'est accomplie. C'était la fin du message. Et les gens étaient étonnés. Qu'est-ce qui arrive ici aujourd'hui? Je vous rappelle que Jésus était dans sa ville, là où les gens le connaissaient. On avait entendu parler de son histoire. Certains avaient accusé même sa mère d'avoir raconté des fables. Donc, la vie de Jésus n'a pas toujours été une vie couronnée de rayons. Mais elle a été souvent de beaucoup d'intrigues. Comme c'est la vie de toutes les personnes qui connaissent deux dimensions. Alors, Jésus, un jour, va avec sa mère dans le temple et ses parents. À 12 ans, il reste auprès des sacrificateurs, il pose des questions à son sujet. Il grandit avec sa maman et son papa à la maison. À l'âge de 30 ans, Jean-Baptiste, qui a commencé au ministère de puissance, dans la parole, et la multitude venait à lui pour se faire baptiser, va voir venir vers lui quelqu'un de spécial. Quand Jésus arrive, Jean-Baptiste a la révélation de qui est Jésus. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu regardes à Jésus, il voit l'agneau qui est venu ôter les péchés. Et quand il se dit non, je ne vais pas baptiser, lui c'est quand même le maître. Il reconnaît qu'il a en face un prophète plus grand, qu'il a en face une autorité. Mais quand Jésus approche, il lui dit, écoute, laisse faire. Il faut que la justice de Dieu soit accomplie. Donc, cesse de regarder à ma dimension spirituelle simplement. Mais restons dans l'obéissance du principe selon lequel chaque homme doit opérer sous l'autorité d'un autre homme. Baptisme. Et c'est là qu'il prend Jésus. Vous ne pouvez pas savoir quand on amène les gens dans les eaux du baptême. On ne sait jamais qui on met dans les eaux. Souvent c'est le chef de l'État. Souvent sur le futur député, souvent sur le futur ministre, souvent sur le futur prophète. Mais quand on met dans les eaux, on ne sait jamais qui on met. Mais quand on sort des eaux, il doit y avoir quelque chose qui se fait entendre. Au même moment, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vous pose une question. Pensez-vous que Dieu aimait Jésus parce qu'il était Dieu, ou il aimait Jésus parce qu'il était Jésus? Répondez, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il aimait? Écoutez-moi bien. Son affection n'a pas été mise en Jésus. Simplement parce que Jésus était Dieu. Son affection n'a pas été mise en Jésus. Parce que Jésus était homme. Son affection a été mise en Jésus. Parce que Jésus était un homme obéissant à Dieu. Sinon, il n'a pas dit, voyez, celui-ci est mon fils. Donc il parle de la dimension de fils et non de la dimension de Dieu. Rattaché à la qualité de vie que menait Jésus sur la terre, j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? J'ai mis en lui toute mon affection. J'ai mis mon affection. Sa manière de vivre a tellement touché mon cœur que mon affection est mise en ce fils-là, Jésus. D'accord? Jésus est donc rempli du Saint-Esprit. Il va dans le désert et il est tenté par le diable pendant 40 jours. Quand il ressort de là, il va à Capernaum. Il commence à accomplir de glorieux miracles. Mais donc, poussé par le Saint-Esprit, il retourne à Nazareth, dans sa propre ville, parmi les siens. Et là, quand il roule le livre, il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Les gens le regardent et veulent à tout prix dire à Jésus, nous te connaissons. Nous connaissons ton passé, on connaît ton histoire, ne viens pas nous raconter n'importe quoi. Mais entre-temps, les gens étaient étonnés. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Quand tu rencontres Jésus, et que la rencontre a été véritable, ceux qui t'ont connu seront étonnés de ce qui va jaillir de toi. Ta vie va être un étonnement pour tes semblables. Amen. pas à cause de la nouvelle voiture que tu roules, le nouveau costume que tu portes, mais la vie qui jaillit de toi étonnera plusieurs. Amen. N'est-ce pas celui-là qui était avec nous ici? Si les gens ne se posent pas cette question, tu n'as pas rencontré Dieu. Chaque fois que vous le rencontrez, les gens qui vous ont connu s'interrogent à votre sujet. N'est-ce pas cet homme-là? N'est-ce pas cette même personne? Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Aujourd'hui, nous vivons dans une dispensation où les gens vont danser à l'église. Les gens vont à l'église juste pour le show. Les gens vont pour leur conscience. D'autres vont parce que, eh bien, mon père y allait. D'accord? D'autres même sont nés de nouveau et refroidis. L'objectif de Dieu n'est plus atteint dans le sens de la communion fraternelle pour ce qu'elle devrait être. L'Esprit Saint que nous avons reçu, qui crie « Abba Père !» Abba Père, dans le sens de l'intimité de notre personne avec Dieu. Cette relation avec même l'esprit commence à s'éteindre. Pourquoi? Parce que, justement, nous menons une vie qui n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous n'allons pas à l'essentiel. Nous ne poursuivons pas les buts de Dieu. Suivez-moi très bien. Les gens qui étaient au temple ce jour, et ça, je veux que chacun d'entre vous saisisse cette révélation. Ils connaissaient Jésus, mais ils méconnaissaient le Christ. D'accord? Ils connaissaient Jésus. Je vais vous dire une chose. Il y avait des gens de l'époque de Jésus qui s'appelaient Jésus. Donc, le nom de Jésus n'est pas ce qui a fait de Jésus l'exception. Tu peux porter tous les noms que tu portes, c'est pas ce qui te rend exceptionnel. Vous voyez les gens qui disent, non, moi je m'appelle Jésus, je m'appelle Pierre. Ça n'a rien à voir. Pierre était un simple pécheur qui est devenu exceptionnel à cause de la vie qu'il a menée. Ce qui rend un nom célèbre, ce n'est pas, vous voyez, le nom, mais c'est la personne qui porte le nom. Il y a des Abraham aujourd'hui qui crient Allah. Comment? Est-ce que vous me comprenez? Ils ne sont pas célèbres pour autant. Et il y a des Isaac qui ne sont pas des Isaac. Il y a des Jacob qui ne sont pas des Jacob. Qui sont vraiment restés des vrais truands sans que leur destinée ne soit vraiment impactée pour le royaume. Et il y a des Raoul qui sont des Raoul. Est-ce que vous comprenez de quoi je veux dire? Celui qui rend le nom exceptionnel, c'est celui qui le porte et non le nom lui-même. Il connaissait Jésus, mais il ne connaissait pas le Christ. Sauf que ce jour-là, Jésus a dit, je ne mourrai pas anonyme comme les autres Jésus. Je suis venu vous annoncer, disait-il, que celui dont on parle dans les Écritures, c'est moi. Que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé la dimension du Christ. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand on dit Christ, ça veut dire loin, avec son onction, le Messie, l'envoyé. Et là, je vais choquer certains religieux. Bien-aimés, toutes les personnes nées de nouveau portent en eux une dimension de Christ. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Aussi longtemps que Dieu t'envoie, tu deviens en Christ pour le périmètre, l'endroit où Dieu t'envoie, tu deviens le Messie pour les personnes. Est-ce que vous comprenez? Pour ta famille, tu es ton Messie. Pour ton quartier, tu es ton sauveur. Pour ta ville, tu es ton sauveur. Pour le monde, tu es ton sauveur. Car Dieu a placé quelque chose en toi pour amener le monde à être réconcilié avec lui. Donc Jésus a révélé la dimension christique, la dimension de Christ qui était en lui. Et quand vous lisez la Bible en 2 Corinthiens 5, puisqu'on est en train d'étudier, d'accord? Versets 16 à 20, il est écrit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Répète après moi, je connais personne selon la chair. Encore, je ne connais personne selon la chair. Et vous voyez, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous avons deux dimensions de vie. La dimension charnelle et la dimension spirituelle. Tu es né, ton père t'a donné un nom. Comment est-ce que ça s'appelle? C'est une dimension charnelle. Ce qui est né de la chair est chair. N'est-ce pas? Ton père dit, tu t'appelles quoi? Joe, tu t'appelles quoi? Mais tu t'appelles Anatole, tu t'appelles Ibrahim, etc. C'est un nom que ton père t'a donné pour identifier ta chair. Que dis-je? Je vais plus loin. Pour identifier la demeure qui porte le vrai homme. Donc le premier nom, c'est le nom de ta maison. Et non le nom de ta personne. Le premier nom, c'est le nom de ta maison. C'est comme on peut dire Château Frontenac. Mais le Château Frontenac n'est pas le nom de l'habitant. Donc dans ta carte d'identité, on a mis le nom de ta tante, de ton habitation terrestre. Mais ce n'est pas ton nom céleste. Amen. C'est la dimension physique. Il y a des maisons qui ont trois étages, qui sont des châteaux. Il y a des entrées couchées, etc. Les maisons n'ont pas tous la même valeur. Et donc, vous voyez, elles ne sont pas meublées de la même façon. Certains d'entre nous aujourd'hui ont porté des chaussures de, je ne sais pas, peut-être combien de millions de francs. Tant mieux. Des sacs, tant mieux. Mais ça, c'est ton corps. C'est la dimension physique et charnelle. Il y a un autre niveau de toi qui, elle, lui, est spirituel. Et c'est pourquoi on dit, on ne connaît personne selon la chair. Gloire à Dieu pour ton diplôme. Agrégé, docteur, tu as un MBA. Fantastique. Tu es le meilleur politicien. Fantastique. C'est très bien. Un grand chef d'entreprise. C'est fabuleux. Les gens t'appellent même, je sais pas, quand on te voit, on se plie, c'est glorieux, c'est fantastique. Mais ça, c'est selon la chair. Même des noms qu'on porte dans le royaume de Dieu, révérend, bishop, archevêque, et ça, c'est dans la chair. Je dis bien, c'est dans la chair. Je répète, c'est dans la chair. Certains de ces noms, c'est pour, dans la dimension charnelle, montrer notre niveau d'élévation, qui peut être fait par les mains d'hommes. Donc on est obligé soi-même de soutenir ses efforts. Vous comprenez? Parce que quand toi-même tu te lèves, tu fais un effort pour maintenir ton nom élevé. Mais quand c'est Dieu qui te lève, est-ce que vous comprenez? Quand c'est Dieu qui te lève, il te lève à la dimension de la hauteur de ses mains. Et personne ne peut te rabaisser car le Seigneur a décidé de t'élever. Ce matin, ce message s'est amené à vivre la vie où tu es élevé toi-même par les mains de l'Éternel. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ouvre, personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Amen. Dis, je suis une terreur pour l'enfer et une fierté pour le ciel. Vous voyez, on ne connaît plus personne selon la chair. Et il dit, suivez-moi bien. Ça, c'est très profond. Si quelqu'un est en Christ, répète ici, oh combien profond, si quelqu'un, si quelqu'une est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un dans cette salle qui est en Christ? Oh, oula. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées. Elles sont passées. Alléluia. Qu'est-ce qui passe? Est-ce que ton acte de naissance change?
Non.
Non. Est-ce que ta corpulence change?
Non.
Non. Est-ce que ton corps physique change?
Non.
Non. Mais qu'est-ce qui change? C'est l'homme intérieur. Vous voyez, c'est l'homme intérieur, c'est ton esprit qui revient à la vie. Et la Bible dit qu'il y a une nouvelle créature. Alors, ton corps a pu obtenir des positions dans le monde. Mais ça, c'est dans la chair. Dis à ton voisin, c'est dans la chair.
C'est dans la chair.
Encore, c'est dans la chair.
C'est dans la chair.
Certains d'entre nous, nous avons obtenu même des médailles dans la chair. On est médaillé, couronné. On appelle tête couronnée dans la chair. Mais totalement décoiffé dans l'esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir ces positions dans la chair. C'est qu'est-ce que nous devenons dans l'esprit. Puisqu'on devient de nouvelles créatures. Et l'apôtre Paul pouvait se targuer de dire que lui, il a été un grand érudit. Il parlait de son école chez Gamaliel. Il parlait de même ses expériences en tant qu'apôtre. Il a été battu 40 coups moins 1. Il dit, j'ai toutes les raisons de démontrer qu'en tant qu'apôtre, parce que Dieu fait au travers de moi, je peux m'imposer. Mais il dit encore, si j'évoque ces choses, c'est dans la chair que je le présente. Donc, j'ai pas besoin de l'évoquer. Je comprends donc que quel que soit ce qui s'est fait par moi, seule la grâce de Dieu me suffit. D'accord? La grâce de Dieu me suffit. C'est quelqu'un qui connaît la dimension de l'esprit. On a trop de personnes charnelles dans nos assemblées. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que tu es quand même un enfant de Dieu, mais charnel. Si tu n'es pas un pécheur, tu es un enfant de Dieu. Tu es un saint charnel. Donc, il y a une forme de problème dans ton identité. Un saint charnel. Tu es saint parce que tu es mis à part. Charnel parce que tu vis selon la chair. Donc, tu es embrouillé toi-même dans ton fonctionnement. Ton nom te qualifie dans la sainteté, mais ta vie te disqualifie. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, parce que être saint, ça veut dire quelqu'un qui a été justifié. Donc le saint, ce n'est pas le canonisé. Qui ce mot n'existe nulle part dans la Bible, canonisé, décanonisé, c'est pas dans la Bible. Ce sont des inventions religieuses. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Il y a des fêtes quand certains d'entre vous prendront le pouvoir qui doivent être annulées et arrachées du calendrier. Est-ce que vous me comprenez? Le jour où la tante ou la grand-mère a fait ci, on n'est pas dedans. Ça, c'est une perte de temps, on doit travailler. Est-ce que vous êtes avec moi? Que quelqu'un dise un bon amen. Amen. Nous parlons de la vie exceptionnelle, que quelqu'un dise amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Qu'est-ce qui passe, bien-aimé? Ta manière de penser, ta manière de voir, tes priorités, d'accord? Quand tu étais plus jeune, pourquoi est-ce qu'on allait à l'école? Vous savez, pourquoi est-ce que, à un certain moment, j'ai moi-même eu des révoltes par rapport à l'école? Parce qu'on nous a dit plus jeune, d'accord, tu vas à l'école parce qu'il faut gagner de l'argent. Mais je suis intelligent et je me dis, mais je vois des gens riches. Ceux qui sont plus riches ne sont pas ceux qui ont fait l'école. Vous comprenez? Donc, si vous dites, on va à l'école pour gagner de l'argent, quelqu'un dira, je ne veux pas perdre tout ce temps pour gagner de l'argent. Alors qu'il y a d'autres moyens. D'accord? Donc, dans la chair, nous avons fait des efforts. Le système des valeurs, c'est, je vais avoir une voiture, je veux avoir une maison, je veux avoir un emploi, envoyer mes enfants. Et on dit que, ah, il a réussi. D'accord? Vous entendez la fille et la femme se marie, on dit, vous entendez les commentaires dans les bancs. Oh, c'est bien, oh, elle a réussi. Elle a eu un bon mari. Alléluia, sa vie a réussi. Le mariage n'est pas une réussite. Avoir un diplôme n'est pas une réussite. Avoir de l'argent n'est pas une réussite. Si ton argent ne sert pas les intérêts de Dieu sur la terre, ce n'est pas une réussite. Allons-y plus loin. Il y a des mariages qui sont des malédictions. Je reprends. Il y a des mariages qui sont des malédictions, qui ruinent ta destinée et t'empêchent de pouvoir accomplir les desseins de Dieu sur la terre. C'est un déshonneur. Ce n'est pas le mariage. Selon Dieu. Je déclare sur la vie de toutes mes filles, avec ta volonté au sang, j'annonce sur ta vie que tu n'entreras pas dans ce genre de mariage. Je te déconnecte avec les agents de Satan qui viennent pour phagocyter ta destinée et t'empêcher de briller et de régner sur la terre comme Dieu l'a annoncé au nom puissant de Jésus. Même si tu ne dis pas amen, je dis amen à ta place. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a des choses quand ton père dit, même si tu ne dis pas amen, ça arrive. Quand Dieu a béni Esaü, après avoir béni Jacob, vous pensez qu'Esaü a dit amen? Est-ce que ce n'est pas arrivé? Ce n'est pas une question que tu as dit amen. Ton père a renforcé. Je suis ton père, je pars. Ça t'arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes passent. Tes péchés sont pardonnés. Le système de valeurs a changé. Ta conception de la vie change. Tu commences à penser différemment. Il est une nouvelle créature. Une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui devient nouveau? Ta manière de voir les choses. Bien-aimé, j'ai reçu la grâce de Dieu pour aider les gens de l'église à entrer dans leur richesse. Sauf que, je vais vous dire quelque chose. La richesse, sans objectif préalable pour cette richesse, devient une malédiction dans la vie de quiconque la possède. Vous avez l'argent, énormément d'argent, sans savoir pourquoi l'argent arrive, cet argent devient nuisible. Chaque fois que vous ne comprenez pas le but pour lequel vous obtenez quelque chose, vous détruisez la valeur de la chose que vous avez. Donc il est important de comprendre le but. Quelle est la raison pour laquelle je suis comme je suis? Posez-vous des questions. Femme, pourquoi je suis femme? Homme, pourquoi je suis homme? Enfant, pourquoi je suis encore enfant en cette saison? Pourquoi n'ai-je pas encore 50 ans en cette saison? Posez-vous des questions. Pourquoi ai-je les cheveux blancs maintenant? Pourquoi j'ai cet âge? Quel est le but de Dieu pour moi en cette saison? Les gens sont morts avant moi, pourquoi ne suis-je pas mort? Posez-vous des questions essentielles sur votre vie. Vous ne pouvez pas mener une vie sans interrogation de votre destinée. Non! Parce que votre corps peut être un grand mensonge. Il voile quelque chose de grand que Dieu est en train de vouloir faire. Alors, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, pour ma part, et je le dis avec une grande audace, j'ai parlé à des mystiques, j'ai parlé à des musulmans, j'ai parlé à des rosicriciens, j'ai parlé aux francs-maçons, j'ai parlé à tout type de personnes sur la terre. Et j'ai toujours eu le courage et l'audace de dire, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Ça, c'est ma conviction, basée sur les Écritures. Et personne ne peut me l'ôter. C'est ma conviction. Ma Bible dit de moi que parce que je suis né de nouveau, Dieu m'a donné le ministère de la réconciliation. Donc, chaque fois que je rencontre quelqu'un, la responsabilité qui est mienne, c'est de tourner le cœur de la personne vers Dieu. Vous comprenez? C'est mon but. Je dois parler de Jésus à cette personne. Bien-aimé, je vous trouve à certains égards extrêmement religieux. Un peuple attaché aux choses superficielles, sans profondeur. Il est normal maintenant que ça change et qu'on aille à un niveau plus profond. Attaché au riba baba, l'Esprit du Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici, ah, je te vois, tu vas voyager, alléluia. Oh, il y a quelqu'un au baba, Dieu me dit, ah, tu vas voir une personne de 200 000, amen. Oh, Dieu me montre, oh, oui, ça c'est, écoutez, ça c'est le bébé, c'est bébétillage, l'enfantillage dans le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est les choses vraiment les plus petites du royaume des cieux. On aime quand on est encore un enfant. D'accord? Si tu es dans cette assemblée, si tu m'écoutes ce matin, c'est parce que Dieu veut t'amener à la dimension de fils, de fille dans le royaume. D'accord? Vous pensez que si Jésus était comme vous, on aurait été racheté? Oui, comme moi, oui. Mais toi, tu dis non, parce que tu sais que tu ne veux pas payer le prix. Amen. Alléluia. La Bible dit, oh my God, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? S'il vous plaît, il a donné qui? Très bien. Est-ce qu'il a donné son âme?
Non.
Il a donné qui?
Envie.
Laissez-moi vous dire une chose. Si vous êtes sous un leadership, surtout spirituel, et qu'on a tendance à vous recommander pour faire certaines choses, c'est parce qu'on vous fait confiance. Je n'en vois pas les personnes à qui je n'ai pas confiance. Généralement, quand vous envoyez quelqu'un, c'est que vous avez confiance en lui. Et l'obéissance de la personne, celle, la confiance que vous placez en elle, et révèle son identité de fils à l'égard du Père. Et la désobéissance, le contraire. Pourquoi est-ce que Jésus est parti? Lui qui était Dieu. Il était Dieu. Les vrais fils dans une assemblée sont ceux qui servent. Ceux qui font quelque chose. Ceux qui participent à l'œuvre. Ceux qui sont là pour donner quelque chose. Mais tout le monde n'a pas le cœur de fils ou de fille dans la maison. On est engagé. Je veux pas être dans le royaume et juste recevoir les bénédictions. Et on a déjà, je reçois. Non, ce n'est pas un bonheur à toujours recevoir. Il faut changer, je donne. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et quand on chante, je vois la pluie, les gens. Oh my God. Oui. Donc, c'est très important, bien aimé. Je donne. Jésus s'est donné lui-même. Pourquoi il a mené une vie exceptionnelle? Numéro 1, il a vécu sur la terre pour honorer son Père. Enlève ta main droite et fais le vœu à Dieu. Je vais t'honorer le restant de mes jours sur la terre. Éternel, donne-moi la force. Je veux vivre pour toi sur la terre des hommes. Alléluia. Vous voyez, il est descendu du ciel, Jean 6, verset 38, c'est lui-même qui dit, pas quelqu'un d'autre, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Laissez-moi vous révéler en secret que je n'ai pas dit au premier culte. N'oubliez jamais. Même quand vous avez l'impression que vous n'avez pas de force pour faire ce que Dieu vous demande, tenez-vous et dites publiquement, je le ferai. Quand vous le dites, vous parlez aux forces du monde. Les anges vous entendent, les démons vous entendent, vous prenez position par vos paroles. Et par vos paroles, vous êtes justifiés. Donc, je me tiens devant vous et je dis, par exemple, comme tous les jours, jamais je ne servirai les intérêts de Satan sur la terre. Le divorce a été prononcé. Les gens disent, oh, ce gars, il n'a pas d'humilité. Bien-aimé, il n'y a pas une question d'humilité dans la déclaration de la parole. La vraie humilité, c'est dire exactement ce que Dieu veut que je dise. L'orgueil, c'est le contraire. Est-ce que vous me comprenez? Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie, alors qu'il n'était pas encore mort. Pourquoi est-ce qu'il a dit avant sa mort? Parce qu'en parlant, il renforçait la puissance spirituelle sur sa vie qui lui donnait la capacité d'aller jusqu'au bout de sa course. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Amen. Homme d'affaires, parlez sur vos vies. J'ai été suscité pour gagner de l'argent. Je serai extrêmement riche. Je supporterai l'œuvre. Moi, je ferai des chèques de 100 millions, de 500 millions à l'œuvre de Dieu. Parlez, parlez. J'ai commencé à le dire tout jeune. Je vais offrir des voitures au pasteur. J'en ai déjà offert. Mais on va aller plus loin. Vous comprenez? Moi que vous voyez, je construis des églises sans demander un centime à quelqu'un. Vous dites, donne une église. Oui, parce que Dieu me rendra encore plus puissant. Financièrement. Est-ce que vous êtes avec moi? Affirmez sur vos vies ce que vous êtes. Parlez pour les intérêts de Dieu. C'est important. Il a vécu pour faire la volonté de son Père. Est-ce que vous êtes là? Il a vécu pour faire la volonté de son Père. Bien-aimé, le fait que tu sois tenté n'exclut pas le fait que tu arriveras au bout. Jésus lui-même a été tenté. Donc ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Si Jésus a réussi, tu peux réussir. Oh, ton amen m'embête, dis un bon amen. Deuxièmement, Jésus a payé le prix le plus élevé. Quel prix tu payes par rapport au royaume? Il a payé le prix le plus élevé. Il a donné sa vie. Oh. Oh. Souvent on chante, je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Vous voyez? Je vis que pour toi seul. Et puis le SMS arrive. On se voit le soir à quelle heure? Je suis un peu arrêté à l'église dans 45 minutes. Oh, oh, je te donne tout mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Donc, alors, le diable te dit à l'oreille, s'il te plaît, change. Je te donne une partie de mon cœur, pas toute mon âme, car j'ai pris rendez-vous à 16 heures. Le Fils de Dieu est là, mais moi, je m'en fous pour cela. Je veux vivre pour ma chair, une partie de mon cœur, pas toute mon âme. Vous comprenez? En fait, c'est ce que Dieu entend, en fait. Quand tu chantes, il entend une partie de mon cœur, pas toute mon âme. Je veux vivre pour moi seul, m'enjailler, c'est mon but. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Il a payé le prix le plus élevé. D'accord? Il a payé le prix le plus élevé. Demande à ton voisin quel prix tu payes. Vous voyez? Cela, vous voyez, le fait qu'il a payé le prix élevé l'a mené à une mort atroce sur la croix. D'accord? Une mort atroce sur la croix au milieu de deux brigands. Si aujourd'hui, ça arrivait à quelqu'un parmi nous, est-ce que vous savez que c'est très sérieux ce que je vais vous dire? Si aujourd'hui, on arrivait à voir un homme de Dieu qui était tué pour l'évangile. Est-ce que vous savez que 9 dixièmes de l'église dira, c'est celui qui a péché contre Dieu? Que non, s'il était vraiment de Dieu, pourquoi est-ce qu'on l'a attrapé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas échappé? Bien aimé, ça c'est l'évangile dilué. C'est pas le vrai évangile. On va voir ça à la fin de ce message. Non, il a payé le prix. Une vie dépouillée de sacrifice est une vie condamnée à l'anonymat dans le ciel. Je reprends. Une vie dépouillée de sacrifice est une vie condamnée à l'anonymat dans le ciel. Ça veut dire quoi? Je peux être célèbre sur la terre et méconnu au ciel. Rien ne garantit que les gens populaires que nous avons vus sur la terre, inclus les prédicateurs, ont la même popularité au ciel. Rien ne garantit. Non. Non. Je peux être populaire et méconnu de Dieu. D'accord? Donc c'est très important. Car le sacrifice est engendré par la passion. Et quand la passion engendre le sacrifice, ça donne une saveur singulière à ta vie et à ta destinée. Je prophétise sur ta vie que ceci est ton partage au nom suprême de Jésus. La passion. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous n'arrivons pas à prier? On prie 15 minutes, on commence à avoir mal à la tête. 20 minutes, on commence à vomir. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas, on n'est pas passionné, bien-aimé. On n'est pas passionné. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. La passion, vous savez, les choses que Dieu nous demande de faire ne sont pas toujours faciles pour notre chair. Notre chair n'aime pas prier. Même quand Jésus priait, ce n'était pas aisé pour sa chair. C'est pas pour rien que le sang a sorti, la sueur s'est transformée en sang. Pourquoi? Parce que pour la chair, c'est difficile. Mais Dieu nous rend capables de faire ce à quoi il nous appelle. Vous voyez, c'est très important ces choses, très important. Jésus a vécu pour un seul but, glorifier le Dieu, le Père sur la terre. C'était le but de Dieu, de Jésus, par Dieu. Jésus a payé le prix. Lève ta main droite et fais ce vœu à Dieu ce matin. Éternel, mon Créateur, je veux payer le prix pour glorifier ton nom sur la terre des hommes. Je veux faire ta volonté. C'est ça mon désir. Donne-moi la force. Je veux y arriver. Au nom de Jésus. Amen. 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 Troisième chose, c'est qu'il faut comprendre que quand vous mettez les deux en marche, le Père aura toujours un regard attentif sur les personnes qui vivent pour ses intérêts sur la terre. Bien-aimé, quand deux enfants de Dieu se mettent ensemble et que les deux enfants de Dieu prient, Dieu n'a pas le même regard sur les deux. Ça va vous étonner, mais c'est la vérité. Et il dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Vous savez que le ciel a des obligations à l'égard de ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Et ceux qui sont désobéissants obtiennent la miséricorde et non jamais la totalité de la grâce. C'est différent. La grâce te donne d'accéder à la promesse et même au-delà de la promesse, au-delà même de ce qui est promis, par la foi, tu saisis. Ézéchias devait mourir, mais par sa foi, il a eu accès à une grâce excellente. On a augmenté sa vie de 15 ans. D'accord? Mais alors que la miséricorde empêche la punition contre ta vie, mais c'est pas parce que tu n'es pas puni que tu as le meilleur du ciel. D'accord? C'est pas parce que le sang pardonne que j'ai le meilleur de Dieu. Mais je prophétise que dans cette assemblée et ceux qui m'écoutent ailleurs, on verra des hommes et des femmes qui sont motivés par l'essentiel et qui obtiennent le meilleur de Dieu sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Mon âme saigne, mon âme a mal quand je vois la francophonie. On est religieux à trop d'égards. Ceux qui aujourd'hui sont nommés comme des leaders de la francophonie, je les connais, je les côtoie, nous parlons ensemble, mais j'ai mal au cœur. Quand vous rencontrez des gens qui s'entretuent entre eux, qui se mettent des peaux de banane, seulement pour que tel soit plus populaire que d'autres, qu'il ait plus de... Non, c'est sale. Ce n'est pas le royaume. Ce n'est pas le royaume. Le vrai royaume, c'est quand je me tiens pour les intérêts de Dieu. Même si la personne était la personne la plus mécréante. J'ai une seule chose en tête, Jésus est mort pour elle. Et je dois tout faire pour l'aider à devenir meilleur. Ce n'est pas un combat de personne à personne. Et des méthodes de séduction pour tirer les membres d'une église à l'autre. Il y a des églises qui sont devenues grandes simplement à cause des scandales des autres églises. Quand est-ce qu'on va se lever pour dire, même s'il y a un scandale dans une église, restez dans cette église, je laisse mon église, je viens ici, je prêche, je viens sur vous, je prêche, jusqu'à ce qu'on garde le troupeau, on relève le berger et il continue le ministère. C'est ça le vrai ministère. C'est ça le vrai ministère. Sinon, on est tous en spectacle au monde. Car chaque fois qu'il y a un scandale dans le royaume, ce n'est pas une église qui est en scandale. C'est le royaume des cieux. Sortons de l'immaturité. Les gens prêchent même des messages du royaume et ne comprennent pas ce que c'est que le royaume. On parle du ciel, mais on ne sait pas ce que c'est. Bien-aimé, l'amour de Dieu est inconditionnel. Est-ce que vous êtes avec moi? Et attention au jugement que vous portez sur les autres. Vivez pour servir aux intérêts de Dieu. C'est très important. Très important. Jésus était tellement engagé. Il était tellement, tellement, tellement engagé. Jésus était Dieu, vous le savez, n'est-ce pas? 100% homme, 100% Dieu. Il va passer une nuit de prière. Et il choisit ses disciples. Il choisit ses apôtres. Au nombre de combien? 12. Et les 12 qu'il choisit, quelqu'un a dit 3. Oh, j'appelle ta délivrance à manifestation. Au nom puissant de Jésus. Non, en fait, c'est une délivrance de confusion. Parce que souvent, tu peux avoir le chiffre et puis tu es confus. Je déclare à tous les étudiants qui vont à l'école que cela ne vous arrivera pas. Votre réponse sur le papier sera la réponse de vérité. Parce que vous connaissez la vérité au nom suprême de Jésus. Amen. Donc, il choisit les 12. Vous voyez, il choisit les 12. Et il marche avec eux. Entre-temps, Jésus sait que Judas, qui est à côté, va le livrer. N'est-ce pas? Il sait que Judas va l'amener à la mort. Mais il garde Judas par consécration et obéissance à Dieu. Qui parmi nous aurait fait ça? Tu sais que ce gars, c'est par lui que ta mort va venir. Mais comme la mort, c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi, tu entretiens celui qui va te livrer parce qu'il est indispensable à ta mission. Ça, c'est le haut niveau de la consécration. Il lui donnait à manger. Il lui a imposé les mains. Il lui a transféré la puissance. Il a chassé les démons. Il était avec les gars. Mais quand il regardait un jour, il dit, bon, on est là tous ensemble, mais un de vous va me livrer. Vous savez, les traîtres sont souvent très courageux. Celui qui pose la question, maître, de qui il s'agit? Il met la main à table, il mange. Jésus dit, celui qui a mis la main à la table, a levé le talon contre moi. Et il dit, maître, c'est moi. Vous imaginez ça? Mais c'est lui qui allait le livrer. Et Jésus continue, et il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est allé à la croix. Mais pourquoi est-ce qu'il est allé à la croix? C'était indispensable. Bien-aimé, suivez-moi bien. Le but pour lequel j'ai reçu la vie nouvelle, le but pour lequel je suis une nouvelle création, c'est parce que Dieu a un but à atteindre par moi, qui peut extrêmement être différent du but que je voulais atteindre moi-même avant de l'avoir rencontré. Donc la prière la plus intelligente, c'est Seigneur, maintenant que je te connais, qu'est-ce que tu attends de moi? On a fait entrer le monde dans l'église et on a paramétré le succès du monde, n'est-ce pas? On a pris les mêmes paramètres. Et on a décrit le succès de l'église. C'est pas vrai. Les gens qui ont réussi dans la chair n'ont pas obligatoirement réussi dans l'esprit. Et les premiers fauteurs, c'est les pasteurs. Quand on établit à l'église diacre ancien, celui qui monte une aisance ventrique, vous comprenez ce que je veux dire, et une apparence de bien-être, on est en train de démontrer qu'on connaît les gens selon la chair. On doit connaître les gens selon l'esprit et non selon la chair. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qui est plus important. La connaissance par l'esprit. Quelle est ta responsabilité dans le royaume? Nous devons ramener à Dieu les âmes égarées. Nous devons ramener à Dieu les âmes égarées. Bien-aimés, je ne vous plais pas des fables. Je suis le témoignage vivant de l'obéissance sacrificielle au royaume des cieux. J'avais 27 ans. 27 ans quand je foulais le sol de ce pays pour venir en mission. Certains d'entre nous sont encore dans les jupes de nos mamans. 40 ans. 27. Est-ce que vous me comprenez? 27 ans d'âge, quand je suis arrivé dans ce pays, avec 100 dollars remis par le ministère. Je vois des gens aujourd'hui à qui on donne 5 millions par mission et ils continuent de demander pour dire c'est peu. Le vrai drame dans notre maison, dans le royaume des cieux, c'est qu'il y a des gens qui sont devenus pasteurs par imposition et même par erreur. Et ils doivent démissionner pour aller être plombier quelque part, maçon quelque part, parce qu'ils ne sont pas appelés au royaume. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Le royaume des cieux ne consiste pas au manger au boire. Manger au boire n'est pas notre première priorité. Je peux manger tous les repas de la terre, mais demander à ma femme si c'est aisé de me faire avaler un seul plat. La passion de mon âme pour les choses de Dieu. Jusqu'où tu es passionné pour Dieu. On va jeûner un jour, tu n'arrives même pas à jeûner jusqu'à 12 heures. Et puis tu dis, Dieu bénis-moi, je veux voir ta... Non! Il y a des choses qui n'arrivent pas dans la vie de ceux qui ne se consacrent pas. La Bible dit, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Lève ta main droite, dis, je veux vivre comme mon maître. Encore, je veux vivre comme mon maître. Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dis, je veux être comme mon maître. Oh, s'il te plaît, parle. Je veux être comme mon maître. Laisse que le diable t'entende. Dis, je veux être comme mon maître. Car je sais que le meilleur est à moi. Bien-aimé, pendant longtemps, ta maison, ta tente, ton habitation a voilé le réel toi. Ce message amène la réelle personne qui vit en toi à se révéler à l'humanité. Je prophétise sur ta vie une vie d'exception. Au nom de... Alléluia! Amen! Amen! Il y a des gens qui diront, n'est-ce pas ce gars qui est allé à l'école avec moi? Ça m'arrive presque tout le temps. Les gens viennent se présenter, on était camarades de classe. Et je suis étonné que tous disent « pasteur, pasteur, révérend ». Et ils disent, vous voyez, ils sont étonnés. Comment est-ce possible? Tu sers Dieu? Oui, la grâce de Dieu. C'est plus le même gars qui buvait des bières, qui fumait, qui était le gars dont on ne pouvait même pas prophétiser l'avenir. J'étais très intelligent, mais en même temps très stupide. Stupide parce que j'embrassais le péché avec ardeur. Et quand Dieu a touché ma vie, au moment où mon père et ma mère, un jour, mon père m'a vu rentrer le matin. J'avais tellement bu, à l'époque il y avait des bières, on appelait Satzen Bro. Donc j'avais bu les Satzen et je tenais deux à la main. Je suis entré, j'étais là comme ça. Et quand mon père m'a vu entrer, il a commencé à pleurer. Authentique histoire. Il dit, c'est pas ce garçon dont on disait, quand il est né, on a eu des apparitions disant qu'il sera grand. N'est-ce pas ce gars? Il a commencé à pleurer. Et je suis allé me coucher. On pouvait rien me dire. Quand je me suis réveillé, qui a bu ma Satzen Bro? Je cherchais ma Satzen Bro. Vous comprenez ce que je veux dire? Authentique histoire. Et les gens me regardaient avec pitié. On disait, on a maudit cet enfant. Brillant qu'il est, il est attaché à l'alcool. Mais le jour où Jésus a fait le... dans ma chambre. Ah. Oh my goodness. Quand Jésus est entré dans ma chambre et que je lui ai donné ma vie, et le premier verset qu'il m'a donné, c'était 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'ai cru cette parole. Je me suis attaché à cette parole. J'ai reçu la vie d'en haut. Et la seule chose qui me préoccupait était de parler de Jésus à d'autres. Aujourd'hui, je ne vois plus ça. Les gens ne disent pas, j'étais en train de prier, Dieu m'a parlé. Bien-aimé, nous, à notre époque, quand on était dans la dynamique de la foi jeune, sans avoir des maîtres comme vous avez aujourd'hui, des instructeurs qui vont dans les détails des Écritures, la passion et la flamme de Dieu étaient dans notre cœur. Sans calcul. Ce n'est pas des affaires. Aujourd'hui, on dit, ah, tu veux devenir quoi, pasteur? Parce qu'on a vu un pasteur avec 3 Porsche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on n'avait même pas vu de modèle de réussite. On a vu des pasteurs avec des chemises déchirées. Donc, quand Jésus est apparu, on n'avait pas de choix. On dit, autant aller dans le royaume. Même si c'est pour mourir dans la galère, on aime le Seigneur. On nous a prêché des messages de galère. Porte ta croix sur le Seigneur. Vous n'avez rien à gagner sur la tête ou dans le ciel. Jusqu'à ce que Jésus vienne me dire, je ne t'ai pas appelé à l'église. Laisse la religion tranquille. Suis-moi, moi Jésus. Je vais te montrer l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Mais je prêchais dans les rues. Je me lève le matin. 5 heures, je prêche avec le mégaphone. Je vais parler de Jésus. Il n'y a personne, aucun de mes amis, qui ne peut dire, ce gars n'est pas venu vers moi me parler de Jésus. Aujourd'hui, il y a plus de 7 qui prêchent l'évangile. Nés de nouveau, par mes soins. À qui je parlais de Jésus, sont venus à Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu es né de nouveau, la preuve, c'est que Dieu te donne le ministère de la réconciliation. Il ne te donne pas l'onction de prospérité. Il te donne l'onction pour l'extension de son royaume. Et la prospérité devient une conséquence de ton obéissance. Maintenant, on a des doctrines. Oh, je suis saint. Alléluia. Oh, soyez saint. Soyez saint. Vous voyez des gens, quand ils s'habillent, ils couvrent les pieds jusque... Il a la tête couverte. Mais il n'y a rien dans le cœur. La sainteté sans productivité est une abomination aux yeux de Dieu. Parce qu'elle n'est plus sainteté, elle est une œuvre de la chair, une œuvre résultant de la vantardise de la chair. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il devait mourir en héros. Il est allé à la croix juste pour être obéissant à son Dieu. Si aujourd'hui je me fais crucifier, je ne serai pas un héros, mais une stupidité ambulante aux yeux de celui qui m'a créé. Quelle est la raison pour laquelle tu vis? Qui te l'a donné? Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous dire une chose. Certains d'entre nous, suivez-moi bien. Il est possible que Dieu vous demande de déposer le premier tablier. Si Dieu te dit aujourd'hui, tu es médecin, laisse la médecine, viens sur moi. On va dire, oh, et c'est égaré. On l'a ensorcelé. Mais c'est pas ce qui est arrivé à Pierre. Il était pêcheur professionnel, bien-aimé. Il nourrissait sa famille. Il a tout laissé. Il a suivi Jésus. Quand Jésus a dit, suis-moi. Qu'est-ce que tu es à même de laisser pour Dieu? C'est l'évangile, n'est-ce pas? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu peux laisser pour Dieu? Non, hein, pasteur, j'ai pas assez de temps parce que, tu vois, j'ai pas trop de temps pour Dieu, pasteur. Je viendrai à l'église une fois tous les 2 mois parce que, en fait, tu parles comme ça parce que tu es debout. Je sais pas si vous comprenez ce que j'ai entendu. Tu parles comme ça parce qu'il t'a rendu fort. Vous voyez? Combien est-ce que les gens sont stupides dans leur conduite? Tu parles comme ça parce qu'il te donne la force de parler. À force de ne pas répondre à l'appel, on te portera dans une chaise roulante pour que tu viennes à l'église. Et là, tu diras aux gens, amenez-moi à l'église vite, amenez-moi à l'église. Parce que tu te rends compte qu'on ne lutte pas devant les desseins de Dieu. Autant obéir quand on en a encore la force, quand on en a encore la richesse, quand on en a encore l'énergie, autant l'adorer avec ce que Dieu nous donne. C'est ça le plus important. Beaucoup sont ingrats. On a reçu la vie nouvelle pour impacter d'autres. Qu'est-ce qu'on en fait? On doit vivre comme le maître. Oh! Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus grands que Jésus. Homme de Dieu, je vous parle. Chantre, je vous parle. Homme d'affaires, je vous parle. Homme politique, je vous parle. N'oubliez jamais, on a un seul maître. On a un seul maître. Même moi qui vous parle, nous avons tous le même maître. Vous comprenez? Si notre maître était un homme de prière, nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Jésus a prié quand il faisait encore noir. Il est resté des nuits à prier jusqu'au matin. Il aimait la prière plus que l'enseignement. Il aimait la prière plus que la prédication. Il aimait la prière plus que le chant. Il aimait la prière plus que la foule. Il aimait la prière plus que le ministère. Car la prière est le moyen par lequel il communie avec celui qui l'a appelé. Si vous n'aimez pas la prière, vous ne pouvez pas prétendre aimer le ministère. Et si vous aimez le ministère, ça peut être l'expression d'une volonté charnelle. La prière est l'indicateur que votre cœur est relié avec votre Père. Vous aimez la prière. Jésus aimait étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vois des gens dans le ministère, mais ils ne peuvent pas citer correctement un verset biblique. Bien-aimé, assieds-toi et apprends. L'onction ne te dispense pas de l'étude. Minutieux des Écritures. Jésus a étudié la parole. Lui qui l'a créé, il était la parole. Il était la parole. Il était la parole, mais il a étudié ce qu'il était, à plus forte raison. Tu es sorti d'une famille où même le sang parle de malédiction. Les forêts sacrées réclament ta destinée. Le sang de ton père est rempli de choses terribles qui luttent contre ta destinée. Tu entres dans la vie nouvelle. Au lieu de t'accrocher à la vie nouvelle, tu continues à vivre selon la chair. Et tu redonnes au vieil homme la place qu'il n'est supposé ne plus avoir. Et tu dis, je vais être un héros, c'est pas vrai. J'ai dit un jour, certains d'entre nous, dans l'église, peut-être pas ici, le diable peut te donner un mariage pour te séparer de Dieu. Il y a des gens qui se marient et le mariage est une malédiction pour leur destinée. Parce que dès le jour où ils se sont mariés, c'est terminé. La porte de la destinée a été fermée. Je prophétise que ce ne sera pas ton partage. Amen. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur le mariage deux fois. Dis à ton voisin, c'est de toi qu'il s'agit? Pose la question. Vous voyez, la vie de Jésus sur la terre était la démonstration de l'amour de Dieu pour le Père. Laissez-moi terminer avec ceci. Dis à ton voisin, retournons à l'essentiel. Dis-le encore au voisin de droite, retournons à l'essentiel. Bien-aimé, je vais vous dire, ma prière ces derniers jours, je prie le Seigneur de tout mon cœur, vraiment de toute mon âme, tous les jours. Chaque fois que je suis là, souvent je gémis seul dans ma douche, je parle seul. Ma prière, pour moi et pour l'Église, c'est que nous ayons le cœur de Dieu. Je vous garantis. J'ai dit, je veux te connaître, je veux faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. C'est pas l'argent, non, c'est la volonté. D'ailleurs, je disais à un de mes fils, que Dieu est en train de lever aussi, que plus l'argent vient, mieux on se rend compte de la vanité du monde. Certaines personnes courent après l'argent parce qu'ils ne l'ont pas eu. L'argent ne peut jamais t'apporter le bonheur. Je dis jamais. C'est un leurre. Qui a écrit vanité de vanité? Tout est poussé devant. C'était un pauvre. Le pauvre ne peut pas dire vanité de vanité. C'est pour ça qu'il est important d'avoir et puis de dire aux gens, ça c'est rien. Je prophétise sur ta vie que tu auras. Et tu vas dire aux gens, l'argent c'est rien. Dieu plus que l'argent. J'appelle sur ta vie la manifestation de la gloire de Dieu au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Car elle est une malédiction. Je prophétise que la bénédiction va enrober ta vie au nom puissant de Jésus. Et tu vas poursuivre l'essentiel. Dis encore un bon amen. Dis encore un bon amen. Laissez-moi vous dire autre chose. Il y a des gens, quand ils parlent, faites attention. Je suis de ceux-là. Quand je dis quelque chose, ton amen peut te propulser radicalement. Ça peut t'éviter des années d'efforts et de longs temps de prière. Est-ce que vous me comprenez? Quand je parle, je dis, il y a des gens. Et que mon doigt se balade et connecte à ton ciel. Il y a quelque chose qui se passe par la puissance de Dieu. Donne-moi bon amen. Je parle à toi qui me regardes dans ta maison. La grâce de Dieu t'envahit. La puissance de Dieu te touche. Et tu sers les intérêts de son royaume. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Quand on vit pour l'essentiel, il y a une récompense qui est rattachée. Lève ta main droite, dis,
je veux la récompense.
Encore, je veux la récompense. Marc 10, verset 28 à 30. Marc 10, verset 28 à 30. Comme tu marches vers le panier, j'annonce sur ta vie qu'il y a des choses qui quittent le ciel et qui marchent vers toi. Au nom suprême de Jésus, que ta récompense soit grande sur la terre. Marc 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, suivez-moi bien, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qui parle ici? Oh, oh, s'il vous plaît, vous y êtes? Qui parle ici? Il dit quoi? Alors, je pose la question à ton voisin. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as quitté? Il dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, vous voyez. Il y a maison, il y a frère, il y a sœur, il y a mère, il y a père, il y a enfant, il y a terre. Donc il y a des gens qui quittent leur maison, il y a des gens qui quittent leur père, il y a des gens qui quittent leur frère, il y a des gens qui quittent leur terre. D'accord? C'est pas parce que tu es né sur cette terre que tu demeureras sur cette terre. Il est possible que Dieu te demande de quitter ta terre. Il y a des gens qui doivent quitter leur maison. Pas pour dire que je garde la maison. Dieu dit, laisse la maison pour le royaume. Donne-la en offrande au royaume des cieux. Va-t'en me servir. Il y a des gens qui quitteront des maisons, qui quitteront des frères et des sœurs, des propriétés. Mais Dieu dit, si tu l'as fait pour Jésus, si tu l'as fait pour Jésus, parce que je peux le faire pour moi-même, sans le faire pour Jésus. Si tu le fais pour moi et pour mon royaume, il dit, tu recevras au centuple, présentement, dans ce siècle. Dis, c'est dans ce siècle. S'il te plaît, dis-le avec foi. Une autre fois encore. La Bible dit, tu vas recevoir des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Comment est-ce que Jésus a quitté sa mère? Puisque Jésus a quitté sa mère, n'est-ce pas? Quand elle est venue le voir, qu'est-ce qu'il a dit? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc il a régné la dimension naturelle de sa mère sur sa vie, sachant qu'il était en train d'aller dans la dimension de Christ et que Christ n'a pas de mère. Donc il ne pouvait pas appeler sa mère « mère ». Parce que s'il disait « mère, maman », il parlait de Jésus. Mais Jésus-Christ n'a pas eu pour mère Marie. Mais Jésus a eu pour mère Marie. Ma mère m'a accouché, moi ce corps. Mais elle n'a pas donné naissance au prophète de Dieu que je suis. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ma mère a accouché ce corps. Ma mère m'a donné cette tente. Ta mère t'a donné cette maison. Elle t'a donné ce corps. Mais ce qui est en toi, à la nouvelle naissance, la Bible dit cela vient de... fais comme ça, ça vient d'en haut. Saisis tout ce que le ciel a pour ta vie. Fais ça, arrête les bénédictions d'en haut. Alléluia. Dis cela sur ta vie. Cela vient d'en haut. Dis ça vient d'en haut. Encore, ça vient d'en haut. Même si tu es fatigué, continue, ça vient d'en haut. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, c'est différent de celui qui fait ça parce qu'il est au sport. Non, là c'est des actes prophétiques. Tu saisis les choses d'en haut. Alléluia. Parce que ça vient d'en haut. Amen. C'est pour ça que quand on adore, on lève les mains vers le haut. Parce que ce qu'on est vient d'en haut. Je parle, écoute-moi bien, sur ta terre. Elle n'a aucune réclamation valable contre ta destinée. T'as pas compris de quoi je parle. Écoutez-moi bien. Ta terre parle contre toi, mais elle ne peut rien contre toi. Quand je parle de ta terre, c'est elle qui a englouti tes pères. C'est elle qui a avalé tes aïeuls. Elle réclame ta personne, mais elle ne peut rien contre toi. Comme elle a vomi Jésus, j'ai dit, elle vomit ta destinée. Elle ne peut rien contre toi, parce que toi, tu viens du ciel. Fais ça, je viens d'en haut. Encore, je viens d'en haut. Encore, je viens d'en haut. Alléluia. 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 Aucune malédiction du village. Aucun mauvais sort relâché sur les peuples de ta zone ne peuvent t'atteindre. Parce que toi, tu es né d'en haut. Alléluia. Il dit, tu reçois dans ce siècle. Oh, dis dans ce siècle. Encore dans ce siècle. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des moments, j'adore Jésus. Je lève ma main. C'est arrivé trois fois où dans ma pièce, Jésus n'était pas loin. Vous ne pouvez pas imaginer quelle joie Dieu a quand une personne s'engage de cœur à marcher avec lui. C'est terrible. Vous ne pouvez pas imaginer quand le cœur est vraiment engagé à marcher avec le Seigneur. Je dis à Dieu, même si on mettait une arme en face de moi, je ne reculerais pas. Tu es ma richesse la plus sûre. Tu es mon bien le plus précieux. Tu es mon Dieu. Je n'en aurai pas d'autre. Jamais je n'emprunterai une autre voie. Même s'il m'arrivait de tomber, la seconde après, je me remettrai debout. Je ne suis pas à l'aise en dehors de tes voies. J'affectionne la voie de la vérité. J'aime le Seigneur. La Bible dit, quand tu as laissé pour Dieu, tu reçois dans ce siècle avec des persécutions. Dans la persécution est souvent une évidence, un témoignage, un signal que le ciel est vraiment avec toi. Ils vont te persécuter. Ça ne veut pas dire que le ciel t'a oublié. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et Jésus s'en est allé. Quand il a dit ces paroles, il a donné l'exemple. Il est mort à la croix. On l'a tué sur la croix. Il a crié « Eloi, 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 lama sabachthani !» Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son sang a ruisselé. Son sang a coulé. Et chaque goutte qui tombe par terre appelait le nom des rachetés. Chaque goutte qui tombait par terre apportait le témoignage de la victoire. Chaque goutte qui tombait par terre sanctifiait la terre de la vraie libation. Pas la libation de nos pères, faite avec du whisky ou de la vodka ou du gin ou du vin, mais la libation faite par le sang. Oh, c'est glorieux. Jésus a payé le prix excellent. Et il est monté à la droite de Dieu. Il est monté à la droite de Dieu. Lève ta main droite, dit, il est à la droite de Dieu. Et il est revenu. Écoutez-moi bien. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Jésus est revenu parmi les hommes. Et quand il est revenu, Marie de Magdala est allée à la tombe le chercher. Et un ange avait roulé la pierre. Il avait un état glorieux. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et sur le chemin, Jésus apparaît et dit à Marie, dis à mes frères que j'arriverai en Galilée. Il arrive à Galilée et Thomas n'arrive pas à croire. Il appelle Thomas. Je prophétise que ce ne sera pas ton cas. Et il dit, touche mes flancs. Regarde mes mains. Il donne la preuve que c'est vraiment lui qui est mort. Jésus. Il donne la preuve à ses disciples que c'était vraiment lui qui était mort. Et il dit à Pierre, Pierre, quand tu étais plus jeune, tu saignais les autres. Maintenant, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te saignera. Et il dit, c'était de cette manière qu'il montrait comment est-ce que Pierre allait mourir pour le glorifier. Bien-aimé, c'est au même Pierre qu'il a dit, je vous donnerai des maisons et des voitures. N'est-ce pas? Je vous donnerai des terres et des frères. C'est au même Pierre qui revient et il dit, je te montrerai la mort dans la part à laquelle tu mourras pour me glorifier. Vous voulez que je vous dise un truc? Écoutez-moi bien. Tout évangile qui a tendance à vous faire croire que Dieu nous a appelés simplement à vivre heureux, sans sacrifice de notre propre vie pour la cause de l'évangile, est un évangile qui vient tout droit de l'enfer pour nous empêcher de vivre le meilleur de Dieu. La bénédiction, oui. L'élévation, oui. La santé, oui. La richesse, oui. Mais le sacrifice par-dessus tout de nos vies pour notre maître. Quand ils ont crucifié Pierre, et on l'a crucifié la tête par le bas, parce que Pierre a estimé que je suis indigne de mourir de la même manière que mon maître. Aujourd'hui, je me demande jusqu'où nous devons aller. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, je parle pour nous, je parle pour la génération future. Écoutez-moi bien, ne regardez pas ce que vous voyez. Je n'avais jamais cru qu'on peut être millionnaire en prêchant l'évangile. Je n'ai jamais cherché l'argent. Si vous cherchez l'argent, c'est la mauvaise motivation. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et depuis que je prêche l'évangile, valeureux serviteur de Dieu, je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Jamais. Même quand je touchais 15 000 en 1999 dans ce pays, je ne suis jamais allé chez quelqu'un pour dire donne-moi un centime. C'est Dieu qui m'a appelé. Est-ce que Dieu est un être incapable? Est-ce que Dieu est une personne incapable de prendre soin de toi? Lève ta main vers le ciel. Adorons-le. Oh, lève ta main vers le ciel. Dis oui à Dieu. Oh, yes, Lord.
Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés. Et régénérer, tu l'as fait pour moi.
Répète après moi, Seigneur Jésus.
Ce matin,
je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Éternel, aide-moi à vivre passionnément pour toi, à renoncer à moi-même, à toute valeur attribuée à la chair, et ne rechercher que les valeurs du ciel, les valeurs de l'éternité. Car je sais que je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es. Ô Dieu, aide-moi, aide-moi. Je veux te servir avec mon cœur, avec mon moi-même moyen, avec tout ce que j'ai. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Ce matin, nous avons des personnes ici qui veulent donner leur vie à Jésus. Là où tu lèves ta main vers le ciel, dis après moi, Seigneur Jésus, je veux vivre pour toi. Avance ici pour que je prie avec toi. Avance ici, que l'église accampe pour eux. Encouragez-les. Encouragez-les. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Lève ta main comme ça vers le ciel. La main droite vers le ciel. Répète après moi, Seigneur Jésus.
Ce matin,
mon cœur est touché par la puissance de ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai vécu loin de toi. Alors, je te demande pardon. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Seigneur Jésus, aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Je veux t'appartenir. Satan, je divorce. Satan, je divorce. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Mon passé est dépassé. Mes péchés sont effacés. Et ma vie est nouvelle. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Laissez-moi prier pour vous. Père, merci pour ce miracle. Tant de personnes, ce matin, acceptant Jésus dans leur cœur, je prie que le message qu'ils ont entendu soit une vérité dans leur vie. Qu'ils soient ces personnes que tu suscites pour un impact singulier dans leur génération. Qu'ils soient protégés, qu'ils soient accompagnés par la main de Dieu. Et que ta gloire soit visible au travers d'eux. Au nom puissant de Jésus, donne-leur la force de se tenir pour toi et de vivre pour toi. Au nom de Jésus, dis Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Thank you.